Ça a commencé. L'émission a commencé.
Debout.
Énorme. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances?
Le football, il a changé.
Good morning Tours, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus Tours. Nous sommes le vendredi 20 janvier 2023, il est 7h15 et c'est parti pour la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Hier, c'était une journée de grève nationale, mais pas de panique, mes camarades de l'EPJT n'ont pas chômé. Et vous allez voir, le programme, il est bien chargé. Salut Zaineb, très heureux de présenter à nouveau avec toi. Qu'est-ce qui nous attend ce matin?
Salut Calvin, c'est un plaisir aussi. Eh bien écoute, au programme, on recevra Laura pour le 6e épisode de l'Anachronique pour un sujet sur la chasse, avant que Zachary ne revienne sur la grève contre la réforme des retraites. On accueillera ensuite Maëlle, qui nous a réservé une chronique sur les gardiens de la mer morte. Puis Marion, notre fidèle M2, nous parlera de rencontres. On ne vous en dit pas plus et on vous laissera découvrir plus tard. Enfin, on terminera par Inès au micro de Good Morning Tour pour la première fois avec un tour de l'actualité de l'Afrique.
Eh bien merci. Juste avant de commencer ce programme riche en actu, petite introduction en musique avec Viva la Vida de Coldplay.
Missionaries in a foreign field. For some reason I
C'était Viva la Vida de Coldplay. Vous l'attendiez, nous en sommes à l'épisode 6 de la rubrique Anachronique. Et pour ce nouveau numéro, Laura, le gouvernement t'a inspiré, puisqu'il a rendu lundi 9 janvier son verdict à propos de la chasse.
Oui, c'est Bérangère Couillard, secrétaire d'État chargée de l'écologie, qui a annoncé les mesures prises par le gouvernement pour mieux encadrer la chasse. Les trois points qui ont fait le plus de bruit sont les suivants. L'interdiction de la pratique de la chasse sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, une nouvelle application pour que les promeneurs et les chasseurs puissent s'éviter, et surtout le refus d'adopter une journée sans chasse par semaine. Ce débat sur la chasse, ça date pas d'hier, on entend parler depuis longtemps dans l'espace public. Écoutez d'ailleurs ce que disait Willy Schrein, président de la Fédération Nationale des Chasseurs sur France Inter, en avril 2021, quand on le questionnait sur la chasse à la glu.
Il faut défendre la chasse à la glu. Heureusement qu'il y a des gens un jour qui se sont rendus compte qu'on pouvait attraper des oiseaux qui étaient collés sur un arbre, ce qui nous permet sûrement d'être là tous les deux à discuter ce matin. Ce sont des chasses dites traditionnelles qui ont été pratiquées sans armes à feu. C'est ce qui a fait l'évolution de l'être humain. C'est ce qui a fait que nous sommes descendus d'un arbre à un moment parce qu'on a convoité le monde animal.
Alors, M. Schrein fait vraisemblablement référence aux chasseurs-cueilleurs. C'est vrai que les hommes préhistoriques chassaient, on ne va pas non plus tout révolutionner avec cette chronique. Simplement, il faut dire que l'on sait très peu de cette période de la pratique et de la pratique de la chasse par nos ancêtres. Par exemple, une étude américaine de 2018, citée par National Geographic, a avancé que 30 à 50% des chasseurs préhistoriques étaient en fait des femmes. Ça fait partie des choses que l'on n'envisageait que très peu jusqu'ici. Dans les années 80, certains scientifiques ont émis l'hypothèse que les hommes étaient d'abord des charognards avant de devenir les chasseurs d'animaux vivants et immenses qu'on se représente tous.
Et une fois l'agriculture et l'élevage adoptés, les humains ont continué à se tourner vers la chasse.
L'agriculture et l'élevage, oui, ou la révolution néolithique selon certains, qui elle aussi est remise en question. Mais bref, dans l'Antiquité, ça dépend des cultures. On sait par exemple que la chasse avait beaucoup plus d'importance dans le monde grec que dans le monde romain, y compris pour la subsistance alimentaire. On continue d'ailleurs à vénérer des divinités liées à la chasse, Artémis ou Diane en version latine, et la déesse du panthéon gréco-romain associée à la chasse, mais aussi plus largement à la nature sauvage. Il y a donc un fort lien entre les deux pour les Européens. Cependant, dans de nombreuses cultures, la chasse devient de plus en plus associée à la classe sociale. C'est le cas en Égypte et c'est le cas à Rome, où l'on met même la chasse en spectacle. Les vénationes, qui avaient lieu notamment dans le Colisée, pouvaient représenter les parties de chasse en milieu fermé et observées par des spectateurs. Et puis arrive le Moyen-Âge.
Il se passe quoi au Moyen-Âge ?
Au fur et à mesure, la chasse comme loisir devient l'apanage de la noblesse, voire du roi. D'ailleurs, il existe des codes très réglementés pour permettre la reproduction du gibier et garantir des parties de chasse à sa seigneurie. Même si, dans certains cas, les riches bourgeois ayant payé avaient aussi le droit de chasser.
Donc la chasse et le pouvoir sont donc très liés depuis le Moyen-Âge, si j'ai bien compris.
Oui, il faut attendre la Révolution pour que la chasse se démocratise et s'ouvre de plus en plus au reste du monde. Mais au fond, pour certaines personnes, rien n'a vraiment changé.
Comment ça ?
La chasse serait toujours très liée au pouvoir. D'ailleurs, un certain nombre d'associations, comme France Nature Environnement, ont dénoncé de plus belle la semaine dernière la proximité du gouvernement avec le monde de la chasse. Il s'agirait certes d'un enjeu électoral, mais aussi d'une question de lobby. Nicolas Hulot, le premier ministre de la transition écologique d'Emmanuel Macron, avait d'ailleurs quitté son poste en 2018 parce qu'il dénonçait la présence de lobbyistes comme Thierry Coste à l'Élysée. Celui-ci avait été convié à une réunion la veille de l'annonce gouvernementale de diviser par deux le prix du permis de chasse.
Merci Laura et à tout de suite pour le Journal des Sports. A bientôt pour une nouvelle chronique Anna ou pas. Il est 7h24 sur Radio Campus Tour et on va écouter Michel Delpech, le chasseur.
Il était 5h du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Et tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages, j'aurais bien aimé les accompagner au bout de leur voyage.
Il est 7h26 sur Radio Campus Tours, on vient d'entendre Le Chasseur de Michel Delpech. Sans plus attendre, on est parti pour le flash avec toi Kelvin.
Oui, effectivement, on ne peut pas commencer ce flash sans revenir sur la grève massive qui a eu lieu hier. Mobilisation importante, historique, les superlatifs utilisés par les syndicats ne manquent pas. La journée de manifestation contre le projet de réforme des retraites a été très suivie, plus de 1,1 million de personnes selon la police et plus de 2 millions selon la CGT. Pour rappel, le gouvernement prévoit entre autres dans son projet le report de 62 à 64 ans de l'âge de départ à la retraite en 2030. C'est la première fois en 12 ans qu'un mouvement est lancé sur un front uni. 8 organisations syndicales et l'unité semble avoir fonctionné. La pression est là pour le président. Hier, il n'était pas en France. Il participe à un congrès franco-espagnol avec une dizaine de ses ministres. Il a tout de même réagi en estimant que c'est important que toutes les opinions s'expriment, même si pour lui, le texte est nécessaire, juste et responsable. Elisabeth Borne, sa première ministre, a salué l'engagement des forces de l'ordre, des syndicats et les bonnes conditions dans lesquelles se sont déroulés les cortèges. Permettre que les opinions s'expriment est essentiel pour la démocratie. Continuons à débattre et à convaincre, a ajouté la chef du gouvernement. Nul doute que le bras de fer ne fait que commencer. En fin de journée, les 8 principaux syndicats se sont mis d'accord pour une nouvelle journée de mobilisation. La date retenue, le mardi 31 janvier. Et dans quelques minutes, Zachary reviendra justement sur la mobilisation à Tours précisément. Pardon, hier, plusieurs étudiants de l'EPJT étaient au sein du cortège pour recueillir des réactions. Des manifestants qui ont dû braver le froid. Cette semaine, une perturbation hivernale traverse la France et a drastiquement fait baisser les températures après la douceur de ces dernières semaines. La neige, elle, est tombée en quantité dans le sud-ouest hier. Le sud-est est aujourd'hui concerné. Ce matin, 7 départements du sud de la France sont en vigilance orange pour neige et verglas. Prudence donc. En ce vendredi matin, il fait 1 degré à Tours. La température grimpera jusqu'à 5 degrés cet après-midi. Et c'est un week-end encore froid qui nous attendra en Indre-et-Loire avec une alternance de nuages et de soleil. C'est aussi l'hiver en Ukraine où les températures sont encore plus froides que chez nous. La guerre se poursuit, 331e jour. Après les combats sanglants la semaine dernière autour de Soledar, la bataille continue à l'est du pays. Du côté politique, les déclarations se succèdent autour des promesses de livraison d'armes à l'Ukraine. Le Royaume-Uni, le Danemark et la Suède ont déjà promis du matériel militaire. La Pologne et la Finlande sont prêtes à apporter leur soutien. Des promesses de livraison d'armes qui ne plaisent évidemment pas à la Russie. Elle a prévenu que la livraison d'armes longue portée entraînerait une aggravation dangereuse du conflit. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réitéré hier son intention de libérer l'ensemble des territoires envahis par la Russie. Il a aussi rappelé sa volonté d'intégrer l'Union européenne. L'Ukraine, qui, je vous le rappelle, a cette semaine perdu son ministre de l'Intérieur. Il est décédé mercredi matin avec 13 autres personnes dans un crash d'hélicoptère. Une enquête a été ouverte. Toujours à l'étranger, c'est une démission surprise. La première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a annoncé vouloir quitter ses fonctions car elle n'avait plus assez d'énergie. Elle devait être en poste au moins jusqu'en octobre prochain. Cette démission est une surprise car la ministre de 42 ans était assez populaire dans le pays. Pendant ses plus de 5 ans de mandat, elle a dû gérer de très nombreuses crises. Le Covid, une éruption volcanique meurtrière ou encore le pire attentat jamais perpétré dans le pays. Elle quittera ses fonctions le 7 février prochain. Toujours pas de premier secrétaire au Parti Socialiste. Au moment où on se parle, Zeynep, le résultat du congrès du PS n'est pas officiellement connu, mais les deux finalistes revendiquent la victoire. Dans la nuit, vers 1h30 du matin, Nicolas Mayer-Rossignol a annoncé sa victoire, suivie quelques minutes plus tard par Olivier Faure. Affaire à suivre donc. Et pour finir ce flash, Zeynep, savais-tu que l'on pouvait survivre en mer grâce à une bouteille de ketchup ?
Comment
en tout cas, c'est la terrible mésaventure qui est arrivée à un homme de 47 ans. Elvis François vient d'être sauvé cette semaine après avoir passé 24 jours en mer, perdu, à la dérive, avec pour seule nourriture donc une bouteille de ketchup, de la poudre d'ail et des cubes de bouillon. Son histoire est digne d'un film. En décembre, il était en train de préparer son bateau dans le port de Saint-Martin, une île du nord-est des Antilles, quand il a été emporté vers le large à cause d'une mauvaise météo. Ce Dominicain a été retrouvé à plus de 200 km dans les eaux colombiennes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est sain et sauf.
Eh bien, merci beaucoup Kelvin pour ce flash. Et comme d'habitude, pour plus d'informations, n'hésitez pas à checker les rattrapages de l'actu préparés avec soin par nos camarades de la promo. Il vous suffit de taper, écoutez bien, rattrapage au pluriel-actu.epgt.fr et je vous promets, ça vaut le détour. Et avant d'accueillir Zachary, on écoute Skrillex, oui, Fred Again et Flowdown pour le petit banger électronique du début d'année, Rumble.
Run for them life. When I step into the jungle, say they wanna group up. They better move up, never gonna win a Royal Rumble. But when I come through, you know what I love to. I send shots for your team and leader. I make a witness decide to vacate. The war's getting sweet just like a Ribena. Yo, listen, yeah that. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Yo, listen, you hear that? Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Yo, listen, you hear that? Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle.
Vous êtes bien sur Radio Campus Tours, c'est Zachary et aujourd'hui je vais vous parler de la réforme des retraites. À l'appel des syndicats avec le soutien des partis de gauche, plus d'un million de personnes se sont mobilisées dans tous les coins du pays hier. Notre belle cité Tourangelle était au rendez-vous avec environ 15 000 participants selon la police. Si ça ne détrône pas Nantes ou Rennes, ça faisait quand même pas mal de monde au départ de la place de la Liberté. J'ai tendu mon petit micro à quelques personnes sur le chemin. Pour entamer le repas, je vous propose un petit bouillon CSP+, un enseignant-chercheur à la fac de sciences de Tours, qui nous résume la situation.
Je suis là pour manifester contre la réforme des retraites qui remet en cause le contrat social qui existe dans ce pays. Nous avons l'un des taux de productivité par salarié le plus élevé du monde. Et la contrepartie, c'est d'avoir un État qui nous offre un bon niveau de protection sociale. Et le gouvernement remet en cause complètement tous ces aspects de l'État social et notamment les retraites.
D'ailleurs, le gouvernement a le soutien d'une partie plutôt importante des retraités eux-mêmes, qui n'opposent pas grand-chose au projet de loi. Mais parmi la foule, j'ai déniché une forme rare, un retraité décroissant, ancien d'EDF-GDF.
Moi, ça fait quand même 18 ans que je suis à la retraite. J'ai eu la chance de partir un peu jeune. En fait, si on est là, nous, c'est pour manifester pour nos enfants, nos petits-enfants. Je ne comprends pas pourquoi des retraités rentrés dans le monde du travail, qui l'ont quitté depuis longtemps et qui veulent imposer à ceux qui travaillent des années encore supérieures. Je veux dire, c'est contraire à l'évolution naturelle du monde. On a eu d'énormes progrès qui ont été faits sur tout ce que l'on veut et je ne vois pas pourquoi on ira encore travailler jusqu'à 60 ou 65 ans. C'est complètement absurde. Non. Partageons le travail, 10 millions de temps de travail, ouais, mais là on est à la retraite, là, attendez. Maintenant, on a pratiquement, dans une classe d'âge, peut-être 50% des gens qui sont morts avant d'aller à la retraite. C'est pas comme ça qu'on conçoit la retraite, c'est pas en augmentant le temps de travail, sachant qu'à 55 ans déjà, une grosse partie des gens n'en trouve plus, donc c'est complètement incompréhensible.
Et c'est vrai que si certains travailleurs du tertiaire connaissent le télétravail depuis le Covid, la plupart des Français souffrent déjà avant le début de leur retraite. Ce que nous explique la femme de notre premier intervenant.
Moi, j'étais dans la formation professionnelle et plus particulièrement dans l'insertion. C'est vrai que les difficultés se font sentir dès l'âge de 55 ans, et notamment pour les femmes, encore plus pour les femmes que pour les hommes.
Et oui, car les femmes sont plus touchées par les carrières hachées du fait de la maternité qui est pourtant, d'un point de vue purement économique, un investissement rentable dans le renouvellement des forces de travail. C'est ce qu'explique cet architecte de 36 ans venu avec sa fille sur les épaules.
Je manifeste aussi pour ma mère, par exemple, qui a fait 4 enfants, qui les a élevés, qui s'est mise à temps partiel pour pouvoir les élever et qui aujourd'hui vient d'apprendre qu'elle va faire 2 années de plus, alors que grâce à elle, je cotise. Donc quelque part, je pense qu'elle a aussi œuvré pour la société. Alors pas de la même manière, c'est-à-dire qu'elle n'a pas tous les mois donné la même quantité d'argent. Mais c'est un peu toutes ces raisons qui font qu'aujourd'hui, ça ne me paraît pas complètement aberrant d'être ici.
Et le souci des carrières hachées, chez les gars comme chez les filles, c'est qu'arrivé à la cinquantaine, personne ne veut prendre des gens proches de l'âge légal de départ à la retraite.
Non, moi je suis vraiment contre travailler plus, puisque de toute façon, à 55 ans... Il n'y a plus de boulot, on met les gens à la porte parce qu'ils ont soit des trop hauts salaires et on les remplace par des jeunes payés au SMIC, surqualifiés la plupart du temps. Donc non, on marche la tête à l'envers, enfin on ne prend pas les choses dans le bon sens.
Et puis il y a aussi des tragédies plus collectives comme le licenciement en masse et les fermetures. En 2020, le fabricant de panneaux routiers SES ferme son site Tourangeau, entraînant 93 licenciements. Hier, cas concret, j'avais donc devant moi un ancien de cette boîte qui se retrouve en plein désarroi avec la réforme.
Ma profession, c'était agent d'expédition chez SES à Tourneur. Et ça fait un an et demi que l'entreprise allait fermer, je suis au chômage et je vais avoir 60 ans au mois de juin. Avec la loi Macron, il faut que je fasse 9 mois en plus. Pour retrouver du travail à 60 ans, c'est pas évident.
Ah oui, c'est pas évident. Bon alors, on a des cadres, des retraités, des chômeurs de plus de 50 ans. Comment notre enseignant-chercheur du début caractérise la foule tourangelle de ce jeudi ?
Alors j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'actifs assez jeunes, entre 25 et 40 ans, ce qui renouvelle la moyenne d'âge des participants. Hein. Jusqu'à présent, on était plutôt sur des personnes de plus de 40 ans. Donc ça, c'est un bon point. Les jeunes actifs sont assez présents dans la manifestation. Par contre, on voit vraiment pas d'étudiants. C'est dommage qu'ils ne se sentent pas concernés parce que cette réforme va directement les impacter. Alors je les comprends. Moi aussi, à leur âge, j'avais d'autres priorités. Mais je crois qu'il est absolument nécessaire de prendre conscience de ces acquis sociaux qu'il faut absolument conserver et se battre pour en obtenir d'autres. C'est ce qu'ont fait les générations précédentes avant nous.
Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'étudiants hier, mais j'ai quand même pu échanger avec un de ces rares spécimens.
Ouais, là je devrais être en cours. Ça me paraissait plus important d'être là. Et puis voilà, même quand on est étudiant, on n'est pas salarié, mais on peut faire grève et ne pas aller en cours. C'est aussi un message politique qu'on envoie. Voilà, cours ou pas cours, je suis là. Non, bah, c'est sûr que c'est inquiétant de se dire qu'à 67 ans, on ne serait pas forcément encore à la retraite. Surtout que moi, je commence à me dire que si je fais des études longues, etc., je vais commencer à travailler tard. C'est une histoire de trimestre. Ouais, ça nous fout dedans tous, quoi.
Bon, globalement, le souci aussi, c'est qu'avec les étudiants, on est un petit peu plus nihiliste, voire doomer.
Macron, moi j'ai peu d'espoir que la grève ait un impact sur la réforme, vu comme il écoute l'opposition depuis 6 ans maintenant. Donc je pense que là, la seule solution, c'est sa démission, voire son explosion, bien sûr.
Alors attention, hein, pas de velléité d'assassinat, on reconnaîtra évidemment un célèbre mème de l'époque des Gilets jaunes, Macron explosion. Pourtant, pour notre ancien agent d'expédition à SES, le bras de fer est sérieusement enclenché après la mobilisation de ce jeudi.
S'il faut revenir, on reviendra. Hein. Il ne faut pas lâcher maintenant. Hein. C'est le début, il ne faut pas lâcher. Hein. On verra qui c'est qui va lâcher des deux, si c'est le gouvernement ou nous. Mais je dis qu'aujourd'hui, c'était phénoménal. C'était une belle réussite pour les syndicats.
Le prochain rendez-vous a été fixé hier soir au mardi 31 janvier, dans deux semaines.
Merci beaucoup Zachary. Et j'ajoute que demain samedi 21 janvier, ce sont les jeunes et la France insoumise qui ont appelé à la mobilisation. Avant que le texte soit présenté en Conseil des ministres lundi 23, les débats à l'Assemblée nationale commenceront quant à eux le 6 février prochain. Il est 7h41 sur Radio Campus Tours. On poursuit en musique avec les Vulves Assassines, La Retraite.
La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on s'est battu pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on s'est battu pour la garder.
La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. La retraite. La retraite. Libérez vos camarades, ouvrez la cage aux soixantenaires. Ils passent des pros, me nazent. Du jardinage et du bricolage. Les mots croisés, et puis du sport. Et aussi du souci en colère. Ils prennent l'apéro entre amis. Qu'ils en dégueulent à la minuit. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. La retraite. La retraite. On veut compter toutes les machines, envoie en l'air dans les glissines. Le fort à table nous mettre minable au crâne. Et qu'elle repasse des diplômes, qu'elle nous fasse des tartes au vin. Ou qu'elle blondouille le soleil. Si elles ont un peu la flemme, on s'arrêtera pas là. On veut entendre les cris de joie dans les parcs qu'on était. C'est comme qu'à libérer les cheveux gris au vent. Courant un bois vers le levant. Qu'il fait chanter et faire des rondes. Et réfléchir au nouveau monde. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder.
Il est 7h44 sur Radio Campus Tours. Maëlle, bonjour, tu nous as rejoint. Cette semaine, ta chronique s'intéresse à un documentaire.
Salut Kelvin, salut Zeynep, bonjour à tous.
Maëlle, ce documentaire nous amène à se poser cette question. Et si la mère morte était sur sa fin de vie ?
Et oui Zeynep, puisque d'après les estimations, la mère morte pourrait disparaître d'ici 30 ans. Une chronique ce matin pour vous parler de cette étendue d'eau qui s'assèche à vitesse grand V. Située entre Israël, la Cisjordanie en territoire palestinien et la Jordanie, la mer morte est le point le plus bas de notre planète, 430 mètres sous le niveau de la mer. Mais depuis les années 70, elle a perdu un tiers de sa surface. Au niveau local, quelques personnes soient alertées sur le recul de la mer morte, leur aventure fait l'objet d'un documentaire.
Vous avez vu ça? C'est ce qu'on appelle la dévastation. Ces chemins donnaient sur la mer, et maintenant ils ne servent plus à rien. Il faudrait mettre des panneaux disant « Avant, la mer arrivait jusqu'ici ».
On se trouve dans la voiture d'Oded Rahav. C'est un entrepreneur israélien et un activiste pour l'environnement. La voiture quitte la route, puis avance sur une étendue de sable, soulevant un nuage de poussière derrière elle. Le trajet est assez long pour arriver au bord de l'eau, au bord de la mer morte. S'en suivent des plans aériens. On reconnaît des creux remplis de boue, de sable, des flaques d'eau. Et on comprend que avant, la mer morte montait jusque-là, puisque oui, le niveau de ce lac salé diminue.
Alors comment expliquer que le niveau de la mer morte baisse ?
Eh bien Kelvin, plusieurs raisons à cela. D'abord, la surconsommation d'eau. Il faut savoir que les trois pays bordant la mer morte, Israël, la Jordanie et la Palestine, sont en situation de pénurie d'eau. C'est-à-dire que dans ces pays, il y a moins de 1000 mètres cubes d'eau par an et par habitant. Évidemment, la géographie et les conditions arides de cette région expliquent cette sécheresse. Alors, les pays en présence puisent leur eau en amont de la mer morte dans son affluent, le Jourdain. C'est le cas d'Israël qui a fait de sa gestion des eaux une question de sécurité nationale. Dans les années 60, l'État hébreu s'est lancé le défi de verdir le désert, c'est-à-dire apporter de l'eau du fleuve pour son agriculture. Les Israéliens ont donc fait dévier le Jourdain et ont construit un aqueduc qui traverse le pays jusqu'au sud. On remarque ici un premier élément de tension. Les États de la région se disputent une ressource essentielle pour l'agriculture, la consommation ou l'industrie. Ensuite, la mer morte est 20 fois plus salée que la mer Méditerranée, toute proche. Les hommes y ont donc vu une opportunité, l'exploitation du sel. Les entreprises chimiques, jordaniennes cette fois-ci, ont donc construit des bassins d'évaporation. L'objectif, extraire les minéraux très lucratifs présents naturellement dans la mer morte. Ils se retrouvent ensuite dans les engrais, les cosmétiques ou les ordinateurs. Des millions de tonnes de sel sont donc extraits chaque année, mais cela assèche le lac. Il faut ajouter à cela l'évaporation naturelle provoquée par la chaleur. Résultat, le niveau de la mer morte diminue d'1,20 m chaque année.
Mais dis-nous Maëlle, quelles sont les conséquences de cette baisse ?
Eh bien ces conséquences, Zaineb, on les voit dans les images du documentaire. Le retrait de la mer morte laisse derrière elle des paysages lunaires. Les stations balnéaires, qui étaient construites au bord de l'eau, sont désormais abandonnées et tombent en ruine. Le sol devient sableux et très fragile. En fait, ces terres se transforment en une immense étendue de sel qui peut s'affaisser à tout moment. L'assèchement de la mer morte provoque à terme un risque écologique, économique et géostratégique. Cela s'ajoute aux tensions déjà existantes dans la région.
Maëlle, comment faire face à ce problème ?
Les solutions existent. Il faudrait réduire le pompage de l'eau dans le Jourdain ou arrêter d'exploiter les ressources naturelles de la mer morte. Il y a même un projet pharaonique, Kelvin, on peut le dire, qui est dans les cartons. Il s'agit de construire un canal long de 180 km entre la mer Rouge et la mer morte, avec plusieurs enjeux derrière. Si ce projet est surnommé le canal de la paix, c'est qu'il pourrait atténuer les tensions dans la région et le stress hydrique. Mais aussi, il permettrait de garder à flot la mer morte et de faire perdurer son exploitation, à condition que les pays concernés arrivent à s'entendre sur ce projet. Mais pour revenir à notre documentaire, puisque c'est quand même le point de départ de cette chronique, et bien, niveau local, d'autres idées ont fait surface.
En gros, on veut traverser la mer. Cette ligne imaginaire fait office de frontière entre Israël et la Jordanie.
La ligne violette.
Oui, la ligne violette. L'idée est de nager jusqu'en Jordanie, puis de revenir, bien entendu.
Qu'est-ce qu'on fait en cas de refus des Jordaniens ? Comment s'assurer qu'on sera bien reçu de l'autre côté ?
Silence, l'un des deux personnages hausse les épaules, comme s'il n'avait pas la réponse. Il ne sait pas à quoi s'attendre.
Ok, bon, on va prendre une photo. Tout le monde met ses mains au centre et on dit « Sauvez la mer morte ».
Sauvez la mer morte !
La mer morte revit !
La mer morte revit !
Pour protester contre l'inaction politique, trois hommes, un Jordanien, un Israélien, un Palestinien, issus de trois pays historiquement ennemis, vont tenter de traverser à la nage la mer morte pour alerter l'opinion. Ce documentaire suit au plus près leurs entraînements, rencontre des défis auxquels ils doivent se confronter avec les préjugés transnationaux. Aussi, la difficile obtention des autorisations gouvernementales de trois États et donc de deux armées, une traversée symbolique, bien au-delà des frontières, qui vise autant à sauver une mer qu'à réveiller l'espoir d'un vivre ensemble. L'eau est révélatrice des tensions dans cette région, mais pourrait permettre de créer une union. Les gardiens de la mer morte, c'est un documentaire à découvrir sur arte.tv.
Eh bien merci beaucoup Maëlle et nous pouvons ajouter qu'en mars prochain, une conférence des Nations Unies aura lieu sur la question de la gestion de l'eau, une problématique mondiale qui concerne une ressource rare. On vous en parlera évidemment sur Radio Campus Tour.
Il est 7h50 sur Radio Campus Tour. On reste dans le thème de la mer avec Les bateaux de Pépite, remixé par Polar Corp.
Je t'en réveille. Pour t'ignorer. j'ai voulu croire.
Quatre sur Radio Campus Tour, on va écouter Marion, notre master 2 fidèle au poste, qui ne veut pas raccrocher l'antenne de la matinale et on la comprend. Elle nous parle aujourd'hui de deux youtubeuses en herbe qui allient témoignage et maquillage pour combattre toutes les formes de harcèlement.
Aujourd'hui, nous accueillons Kelly et Megan qui ont lancé le projet Elixis. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Elixis, ça vient d'où ce nom ?
En fait, c'est une amie à moi qui m'a donné ce surnom et j'ai plutôt kiffé et je me suis dit bah vas-y je garde, voilà, c'est tout.
Et c'est tout, ça vient juste de cette histoire. Ok, d'accord. Et alors en fait, pour résumer un petit peu à nos auditeurs, c'est une chaîne YouTube. Le principe est assez simple, il y a une vidéo qui montre un témoignage et un make-up, un maquillage si vous préférez. Ce n'est pas n'importe quel type de témoignage. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu les thématiques que vous abordez ?
On aborde plusieurs thématiques. Il y a tout ce qui est violence, donc que ce soit conjugale, violence en tout genre. Il y a aussi le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement qui sont pris en compte. Donc on prend vraiment tout type de traumatisme, on va dire, et que les personnes nous envoient en témoignage, qu'ensuite on retranscrit pour pouvoir faire les vidéos.
D'accord, et du coup, d'où ça vous est venu cette idée de projet si particulière ?
C'était le 5 mars 2022, c'était pendant une manifestation pour le féminisme. Et en fait, on a pu manifester toute la matinée pendant 2 heures. Et en fait, à la fin, il nous restait 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, on pouvait parler devant tout le monde pour dire ce qu'on avait envie de parler. Et juste entendre des gens dire « on te croit », ça a été un déclic pour moi de me dire qu'en fait, il y a des gens qui me croient par rapport à ce que j'ai vécu. Et j'ai regardé ma mère après tout ça et je lui ai dit « bah, maman, j'ai envie d'aider les gens qui ont subi des agressions sexuelles, viols, violences conjugales ou plein de choses comme ça ». Et je l'ai lancé sur Instagram. Il y a plein de gens qui ont commencé à me juger. Et j'ai dit, qu'on me juge ou pas, je le fais quand même. Bah, franchement, moi, genre, j'ai créé ce projet, c'est pour que les gens puissent pouvoir parler. Parce que je sais que le silence, ça veut dire beaucoup de choses. Qu'une personne, bah, si elle reste silencieuse, c'est qu'elle a eu un énorme vécu. Et le fait de parler de ses problèmes à une personne inconnue, ça peut être compliqué. Mais sachez que chaque témoignage sera entendu, c'est sûr et certain. Et... bah, chaque victime, on les entend, on les croit et il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse. Parce qu'on n'en peut plus, on est tous fatigués de ces comportements de merde en fait. Et il faut que ça s'arrête. Mmh. Genre quand on lit les témoignages, il y a plein de gens qui disent « oui, ça doit rentrer ». Non, ça nous énerve. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui bouge.
On est plus énervé que triste. Enfin, on est quand même un petit peu attristé en lisant les témoignages. Mais ce qui nous affecte vraiment le plus, c'est que dans la plupart des cas, la justice ne fasse rien en fait. C'est surtout ça qui nous embête le plus et qu'on voudrait vraiment faire changer.
Mais du coup, pourquoi vous avez choisi ce format sur YouTube ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaisait plus, YouTube, ou pourquoi en fait ?
YouTube, parce qu'on s'est dit que c'est la plus grande plateforme des réseaux sociaux. Bah, Instagram, ça a été, c'est plus pour les photos, les réels ou autres, alors que YouTube, c'est vraiment le côté plus professionnel où on sait que grâce à YouTube, on pourra se faire reconnaître.
Du coup, peut-être pour terminer, si on veut participer, comment on fait ?
Alors, si vous avez un témoignage à nous faire parvenir, vous pouvez nous contacter soit sur Instagram.
Sur Instagram, c'est alexismoonrock-du-8. Sur YouTube, c'est alexism, juste la lettre M après.
Soit par mail, parce qu'on a une adresse mail aussi pour que ce soit plus simple pour répertorier tous les témoignages.
C'est alexismoonrock@gmail.com.
Vous nous envoyez votre témoignage, donc n'importe quel thème, ça dépend de votre vécu, avec le titre de votre vidéo. Si vous avez un maquillage en particulier que vous voulez que Alexis fasse, il faut le préciser aussi. Et si vous souhaitez être en anonyme ou non, parce qu'on sait que ça peut être compliqué pour certaines personnes et que certains veulent garder l'anonymat. Et on accepte vraiment tout le monde, que ce soit homme, femme, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui subissent... des mauvaises choses. Donc on accepte vraiment tout le monde.
Même les non-binaires, oui. Les parents, les grands-parents, on les accepte tous. On a dit on veut prendre tout le monde, à part les mineurs, on a demandé juste à avoir une autorisation, que ce soit du responsable légal ou un parent.
Oui, bien
comme
sûr.
Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de problème. On a aussi un compte TikTok, c'est Alexis and Moonrock.
Du coup, elle sort quand la prochaine ? C'est...
Samedi.
Samedi, ok.
Tous les samedis.
En vrai, comme on a dit avec Moonrock, le principal, c'est que quand on fait le témoignage, ça plaise à la personne qui est concernée, en fait. Que ce soit les vidéos de make-up ou la WAF, on recommence plein de fois. Tant qu'on n'est pas contente du résultat, on ne la publie pas. C'était Alexis pour vous servir. Passez une bonne journée. Le El Pulpis King.
Projet Alexis ont déjà reçu plus d'une vingtaine de témoignages. Vous pouvez retrouver leurs 3 premières vidéos sur YouTube.
Merci beaucoup Marion pour cette découverte. On enchaîne sans attendre avec Jeanne. Salut.
Salut. Elle est tellement habituée à Good Morning Tour qu'on ne pense parfois même plus à la présenter. Comme vous l'avez vu, c'est Jeanne bien sûr. Aujourd'hui, tu nous as réservé une chronique sur la démographie. Dis-nous tout.
C'est ça, bonjour à tous, bonjour à vous. Alors je vais vous présenter rapidement le dernier bilan annuel de l'INSEE qui a été publié mardi. Et faisons un rapide détour de ce rapport qui prend la température sur bien des facettes sociétales de notre cher pays. Premièrement, la population française a dépassé le 68 millions d'habitants le 1er janvier 2023, soit une petite hausse de 0,3%. Mais pourtant, le solde naturel atteint son plus bas niveau historique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce chiffre qui relate la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès est de plus 56 000.
Si ce n'est pas les naissances qui provoquent l'augmentation de la population, qu'est-ce que c'est ?
Eh bien Kelvin, c'est le solde migratoire qui est de plus 161 000 en 2022. C'est le principal moteur de la progression de la population.
Un solde naturel qui baisse donc, qu'en est-il de la fécondité ?
Eh bien, elle aussi subit une légère baisse. En 2022, la fécondité descend à 1,79 enfants par femme, alors qu'il était de 1,84 en 2021. Ce chiffre confirme une nouvelle fois la place de bon élève de la France vis-à-vis de l'Europe. Quel que soit notre pessimisme ou notre manque de confiance dans l'avenir, les Français restent les champions de la fécondité au niveau européen. Et la comparaison est instructive. Selon les démographes, elle est synonyme d'une bonne articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Ce qui reste stable, cependant, c'est l'âge moyen de la maternité, qui est à 31 ans. Ce sont les femmes âgées de 25 à 34 ans qui sont les plus fécondes. Le taux de fécondité de celles de moins de 30 ans connaît depuis les années 2000 une baisse qui s'accentue encore et toujours depuis 2014.
Jeanne, qu'en est-il de l'espérance de vie ?
En 2022, on a aussi observé une stagnation donc de l'espérance de vie. Après une baisse importante en 2020, directement liée à la pandémie, les hommes gagnent seulement 0,1% un an d'espérance de vie en 2022 par rapport à 2021, soit 79 ans et 3 petits mois d'espérance de vie pour toi, Kelvin. Et puis celle des femmes ne progresse pas et reste à 85,2 ans pour toi, Zeynep.
Il n'y a donc aucune bonne nouvelle.
Si, on observe un regain des mariages. C'est finalement l'un des seuls points positifs de ce bilan annuel, l'augmentation des mariages et des pactes civils de solidarité, autrement appelés PACS. Il est sensible et 244 000 mariages ont été célébrés. Parmi les unions, on note que l'union de 7 000 personnes du même sexe ont été célébrées. Et par ailleurs, les 29 000 PACS qui ont été conclus en 2022 est le nombre le plus élevé depuis sa création en 99.
À Tours, est-ce qu'on a des chiffres ?
Pas depuis 2019, Kelvin. Le dernier recensement de l'INSEE de la ville affiche une population de 137 000 habitants sur la commune. La capitale tourangelle est proche d'atteindre le même nombre d'habitants qu'en 1975, un record pour la commune.
Et dans le reste du monde, un chiffre inédit, il paraît.
Oui, Zineb, c'est du jamais vu depuis 6 décennies. La Chine, pays le plus peuplé du monde avec 1,4 milliard d'habitants, soit 1/6 des habitants de la planète, a vu sa population baisser en 2022. En 2021, le nombre de décès était ainsi plus important que celui des naissances, provoquant un solde naturel négatif de 850 000 personnes. De nombreuses raisons expliquent ce chiffre inédit. Coût élevé de l'éducation, le vieillissement de la population ou encore un meilleur niveau d'études des femmes. Et pourtant, le pays avait mis fin à sa politique de l'enfant unique depuis 2015. Les Chinois peuvent désormais avoir 3 enfants, une mesure qui n'a pas été suffisante pour encourager les naissances dans le pays. La nouvelle inquiète autant les démographes que les économistes. On parle déjà de grandes répercussions sur l'économie chinoise jusqu'en 2100.
Merci Jeanne, on en sait maintenant un peu plus sur la démographie en France et dans le monde. Après ce point statistique, eh bien on va accueillir une nouvelle arrivante, Inès, qui nous a concocté un journal de l'Afrique.
Merci Zeynep, et c'est parti pour un petit récap des actualités de la semaine du continent africain. On part directement en République démocratique du Congo. Une centaine de manifestants s'est réunie à Goma ce mercredi pour dénoncer la présence de la force régionale de l'EAC, East African Community. Jugée inefficace, taxée même d'ingérence, elle est présente dans le pays depuis quelques mois maintenant. Elle a été déployée en renfort de l'armée congolaise pour lutter contre les groupes armés. En ligne de mire, les milices communautaires, mais surtout les rebelles du M23. Depuis 2012, ce groupe mène des attaques et occupe les territoires de la province Nord Kivu, proche de la frontière avec le Rwanda. Les tensions ne cessent de croître entre les deux pays voisins. En effet, la RDC accuse le Rwanda de soutenir financièrement et militairement le groupe rebelle. À des milliers de kilomètres de là, Félix Tshisekedi, le président congolais, a encore une fois condamné ce soutien au forum de Davos, en Suisse, ce mardi. Toujours en République démocratique du Congo, 3 fosses communes ont été découvertes par les militaires de la mission onusienne MONUSCO dans la province d'Ituri, à l'est du pays. Cette tuerie est attribuée à la milice Kodeko, un groupe armé de la communauté Lendu. Dans cette province frontalière de l'Ouganda, de vives tensions entre différentes communautés agricoles mènent régulièrement à des massacres. Depuis début décembre, ce sont plus de 190 civils qui ont été tués en Ituri, selon l'ONU. On part en Algérie maintenant, la justice a confirmé la détention provisoire d'Issane El Kadi. Incarcéré depuis le 29 décembre, le patron de presse, directeur de Radio M et du site d'information Maghreb Emergent, est accusé de collecte de fonds illégale et soupçonné d'atteinte à la sûreté de l'État. Reporters sans frontières et Amnesty International appellent à sa libération.
Et puis dans l'actualité également, les relations franco-algériennes se réchauffent, Inès.
Oui, tout à fait. Le président algérien a annoncé une visite d'État dans l'Hexagone en mai prochain, 4 mois après celle de son homologue français à Alger. Sa dernière visite remonte à 2017, alors qu'il n'était que Premier ministre et lui avait d'ailleurs coûté sa place au sein du gouvernement algérien. Elle acte la réconciliation entre les deux pays, qui ont signé une déclaration commune de coopération en août dernier. Elle tourne principalement autour de sujets comme les régimes de visa accordés par la France ou encore la lutte contre l'immigration clandestine. Des relations bilatérales rompues en août 2021 après des propos du président français sur les questions mémorielles de la colonisation. Même si l'Algérie semble se réconcilier avec la France, les tensions sont plus fortes que jamais avec son voisin marocain. En cause, le soutien algérien au Front Polisario. Ce mouvement indépendantiste sahraoui revendique la souveraineté du Sahara occidental au même titre que le Maroc. C'est dans le sud-ouest algérien que s'est tenu le 16e congrès du Polisario qui réunit du 13 au 20 janvier plus de 2000 délégués étrangers. Le but, élire un nouveau chef des indépendantistes et un nouveau gouvernement. Même si le cessez-le-feu en 91 a mis au point mort le conflit, en 2020, les armes ont été reprises. La question de la souveraineté du territoire est sur le devant de la scène face aux Nations Unies incapables de régler le conflit. On finit ce petit tour de l'actualité africaine au Sénégal avec le possible procès d'Ousmane Sonko. Une ordonnance renvoie le leader du principal parti d'opposition du Sénégal devant un tribunal criminel. Il est accusé par une employée d'un salon de massage à Dakar de viol à répétition et menace de mort. En mars 2021, des émeutes meurtrières et destructrices de plusieurs jours avaient éclaté à l'annonce de son arrestation après le dépôt de plainte. Ces accusations ont été immédiatement démenties par Ousmane Sonko et dénoncées comme une tentative du président Macky Sall de l'écarter de la vie politique. Une affaire qui soulève de vives tensions alors qu'Ousmane Sonko, qui est arrivé troisième à l'élection présidentielle de 2019, a déclaré sa candidature à la prochaine présidentielle prévue pour 2024.
Et on remercie Inès pour ce point sur l'actualité en Afrique, un continent assez peu mis en avant. Il est 8h08 sur Radio Campus Tours et on enchaîne avec Laura qui est de retour dans le studio. Rebonjour pour le journal des sports. Alors on programme du biathlon, du basket et surtout de l'escrime.
Pro oblige, on commence par le biathlon. La Coupe du Monde 2022-2023 continue à Antols Anterselva en Italie avec le sprint femmes hier remporté par l'Italienne Dorothea Weirer. La Française Chloé Chevalier est elle deuxième, mais c'est toujours une autre Française, Julia Simon, qui garde la première place au classement malgré son arrivée en 9e position hier. Le sprint messieurs a lieu aujourd'hui. Escrime, le Challenge International de Paris avait lieu du 12 au 15 janvier. Il s'agit d'un rendez-vous annuel incontournable pour les amateurs de fleuret. Les deux Français champions du monde en titre, Enzo Le Fort et Isaura Tibus y participaient. Si lui ne s'est classé que 7e, elle est montée sur le podium et repart avec la médaille de bronze. Basket, c'est à l'Accor Hotel Arena que s'affrontaient hier les équipes de NBA Chicago Bulls et les Detroit Pistons à l'occasion du NBA Paris Game. Verdict de ce choc des titans, les Bulls ont emporté 126 à 108. La France a battu le Monténégro en handball hier, mercredi soir, pour son premier match du tour principal des mondiaux masculins 2023. Le score 35 à 24. Les Français sont premiers du groupe 1 pour l'instant. Match contre l'Iran aujourd'hui à 18h. Rafael Nadal a été éliminé de l'Open d'Australie mercredi face à Mackenzie McDonald. Blessé, il a dû passer des examens et a annoncé hier, jeudi 19 janvier, qu'il devrait s'absenter des cours pendant 6 à 8 semaines. Il était pourtant le vainqueur 2022 de ce tournoi de tennis international qui ouvre la saison du Grand Chelem. Top 14 de rugby, le Stade Toulousain est toujours en tête du classement provisoire, même après sa lourde défaite contre le Stade Rochelet samedi dernier, 30 à 7. Prochaine journée le samedi 28 janvier. Et on termine avec le football, le PSG a affronté la sélection saoudienne hier lors d'un match amical, duel Messi-Ronaldo très attendu après que ce dernier ait rejoint l'équipe d'Al Nasser il y a 2 semaines. Résultat 5 à 4 pour le PSG. Son cloche différent en revanche pour le club parisien du côté de la Ligue 1. Le PSG a perdu face à Rennes dimanche 15 janvier 1 à 0. Les Parisiens conservent tout de même la tête du classement devant Lens et Marseille. Défaite pour le PJT FC lors du match de retour contre une équipe pourtant vaincue lors de la phase aller. L'équipe masculine de l'école s'incline 3 à 1. Il faut dire qu'ils étaient désavantagés par le nombre et jouaient à 9 contre 10. Résultat du coach que vous connaissez bien. Réaction du coach que vous connaissez bien. Parce qu'il présente d'habitude ce journal des sports. On écoute Florian Vosniak.
Bah forcément un peu déçu. Hein. Défaite 3-1 alors qu'on menait 1-0 à la mi-temps. Mais bon, je pense que tout le groupe sait quels sont les efforts à reproduire sur les prochains matchs. Faire des efforts collectifs, les uns pour les autres. Et je pense que si on suit cette voie, il n'y a pas de raison que ça ne nous sourie pas à l'avenir.
Et bon, on leur souhaite le meilleur pour leur prochain match prévu lundi. Et c'est déjà la fin de cette matinale. Merci de nous avoir accompagnés tout au long. Merci à Zachary, notre technicien hors pair. Merci pour la musique et pour ta chronique.
Merci à Laura pour ce nouvel épisode de la rubrique Anachronique. Sans oublier Maëlle, Marion, Jeanne et Inès. Et merci à toi Kelvin, c'était un plaisir comme toujours.
Merci à toi Zeyneb, plaisir partagé évidemment. Toute l'équipe de l'EPJT vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne journée, un bon week-end. À très vite.
Chlamydia, la furette empaillée qui sert de trophée, se rapproche de plus en plus de Tours. Donnez-moi un E, E. Donnez-moi un P,
P.
Donnez-moi un J,
J.
Donnez-moi un T,
T.
EPJT.
Pour la pratique, est-ce que vous pouvez nous dire comment se déroulent les stages et l'alternance durant le cursus à l'EPJT?
Alors, il se déroule bien.
Et ici, à l'EPJT, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat.
Enfin, Jeanne nous parlera... On n'a pas très bien compris, on verra avec elle. Comment ça, je suis barbeau?